Bernard, on se retrouve chez toi cet après-midi pour évoquer les questions qu'on peut se poser quand on est engagé dans ce qu'on appelle une recherche spirituelle. Et justement, pour commencer, on se demande d'où vient cet élan si particulier qui anime les chercheurs et qui suscite toutes les questions qu'on va pouvoir aborder au cours de l'après-midi.
Il y a un monsieur de 80 ans ou plus qui me posait cette question, mais pourquoi à mon âge, après avoir tant lu, tant cherché, j'ai encore des questions? Qu'est-ce qui pose question? Mais la vie. La vie pose question. C'est pour ça que je dis que tout le monde est en recherche. On la nomme spirituelle pour la différencier de quelqu'un qui chercherait les champignons, je sais pas. Autrement, oui, c'est une recherche, c'est une quête, j'ai besoin de réponses à. Au début, ça commence comme ça. Pourquoi le monde? Pourquoi moi? Il faut que je voie de plus près ce que je suis, pourquoi, enfin toutes les questions qui peuvent nous passer par l'esprit.
Mais finalement, qu'est-ce qui pousse un chercheur à s'engager dans la recherche?
C'est un désir intense d'être heureux, avant tout. Parce que c'est ce que tout le monde recherche, que ce soit à travers un abus d'alcool, de drogue, de sexe, tout ce qu'on veut, les gens veulent être heureux. Et le paradoxe et la difficulté, c'est qu'on le recherche avec les sens. Le mental et l'individu. Fonctionnant avec les sens, mais donne que des sensations. On les appelle plaisir si elles nous font du bien, souffrance si elles nous font du mal. Ce qui est certain, c'est que c'est éphémère. Je ne peux pas me contenter de l'éphémère. C'est ce que j'ai toujours ressenti, en tout cas. Hein. Comment je pourrais être bien dans l'éphémère? Si ce que je trouve au bout de ma quête ou de ma recherche, de mes questions et tout, ne me rend pas heureux, ne me donne pas ce bonheur que je pressens au fond de moi-même, à quoi ça va me servir, quoi? Si c'est uniquement pour comprendre le fonctionnement de l'univers, du monde, avec éventuellement moi dedans, et alors? C'est cette vie-là que je veux, moi, sans problème. Mais c'est ce qui brûle à l'intérieur, qui nous attire à lui, et c'est la vie, qu'on appelle le soi, quoi. Ou d'autres noms.
Mais quand tu dis tout ça, ça sous-entend qu'il y a vraiment quelque chose qui dure, qu'on peut trouver et qui soit totalement satisfaisant.
Ah, je pense bien, ouais.
Ça, c'est pas évident pour nous autres.
Ben si, comme on dit souvent, on ne sait pas le nommer, mais on le pressent au fond de nous, quoi. Souvent les gens disent, mais allez, certes, celui-là il vit comme s'il était éternel, parce que c'est vrai. Il y a quelque chose d'éternel en nous, bien que le mot éternel ne veut rien dire. Du point de vue humain, éternel, ça ne veut rien dire. Pourtant, c'est pressenti.
C'est pressenti et en même temps on se sent impuissant quand on essaie de le vivre.
Parce qu'on voit l'individu évoluer. On pense que l'individu doit obtenir quelque chose, accéder à un autre état ou réaliser. Or, ce n'est pas l'individu qui réalise. Moi aussi, le premier, j'ai pensé qu'il fallait devenir meilleur, puisque j'étais pécheur, responsable de tous les maux de la terre, et entre autres de Jésus mort sur la croix. Alors évidemment, avec exemple comme Ramana, mais comment? C'est pas possible, je ne peux pas devenir comme Ramana. Mais bonne nouvelle, il n'y a pas à devenir. Un sage ou des mots comme ça. Ce n'est pas l'individu qui réalise, c'est la conscience que j'ai de cet individu. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on change dans l'individu, il va finir. Il va finir dans sa caisse. Comme je disais un jour à un moine zen, très cool, la seule différence qu'il y a entre vous et un chercheur énervé, c'est que vous mourrez cool, puis lui, il va mourir en gueulant. Ça m'énerve de mourir. C'est la seule différence.
Mais pourquoi on se prend pour cet individu si on est beaucoup plus que ça?
Parce que c'est le mode de fonctionnement de la manifestation. De cette base qu'on appelle le soi, notre véritable nature, puis de tas d'autres noms en fait, hein, surgit tous les matins une vie particulière, ça ne peut pas marcher autrement. Donc l'identification qu'on voit souvent comme une erreur n'en est pas une, c'est naturel, ça marche comme ça. De cette base, il n'y a pas conscience d'être, surgit le matin, et la sensation d'exister, tout de suite récupérée par le processus mental. Qui tout naturellement dit, hop, c'est là que t'habites. Donc ça fait, j'existe, je, dans le corps, évidemment dans un endroit, le monde, et au moment du réveil, à un certain moment, ce qui crée l'espace-temps. Donc ça, c'est naturel. L'identification est naturelle. Ce qui est important, c'est que je le sais. La conscience de ça est importante.
Oui, mais le plus souvent, la conscience et le mental sont confondus. C'est pas évident de faire la différence.
En général, c'est assez confondu. Moi, je fais bien la différence que la sensation d'exister, c'est la conscience. L'impression d'être un individu, c'est le processus mental qui l'interprète comme ça. Donc, même la conscience apparaît, hein. Ce qui est important, c'est que je le sais. Mais pour le savoir, il faut bien qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui le sache. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Je préexiste à la conscience que j'ai de moi-même. Ça, c'est essentiel. Un jour, la conscience, à force d'être dans l'attitude témoin, va réaliser. Ça commencera par la conscience, ça finit autrement. Mais ça débute par la conscience, qui, faute de contenu, devient l'être-té qu'elle était déjà, mais le mental ne le sait pas. Quoi.
Tu dis faute de contenu, mais le paradoxe, c'est que on continue à alimenter, à remplir, plutôt que le contraire.
Ouais, c'est naturel, ça. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais principe. Il y a le fait que la personne passionnée ira jusqu'au bout. J'ai un jour un passionné de Johnny à la télé. Il était garagiste, il écoutait sa musique, il avait les photos de Johnny partout. Il lui ressemblait, il n'y avait que ça. Et pourtant, c'est pour quelque chose de temporaire. Un chanteur, même si c'est bien, c'est temporaire. Nous qui recherchons quelque chose d'éternel, même si le mot ne veut rien dire pour un individu, si on ne met pas au moins ce que met un passionné d'un chanteur ou d'une vedette quelconque, comment on y arriverait, quoi? On ne peut pas faire à moitié là-dedans. Hein. On reçoit dans la mesure où on donne. C'est-à-dire qu'on... Alors, c'est un peu impropre aussi, mais si on donne tout, on recevra tout. Le tout, c'est le soi.
Mais si on n'est plus cet individu, si on n'est plus identifié, en fait, à cet individu, qui profite de ce bonheur?
Le bonheur lui-même, c'est ma nature. C'est inexplicable avec des mots, ça. C'est comme de l'amour. Je dis toujours, si on peut l'expliquer, c'est pas de l'amour. On est ça par nature, mais bon, sans l'interprétation du mental. Et avec des mots, comment dire que la réalisation m'apporte le bonheur, parce que c'est le bonheur. Voir que la vie est éternelle, voir que l'individu, ben oui, il naît, il meurt. Ce sont des tout petits événements par rapport à celui qui est la base, qui permet que tout ça s'élance. Mais on est cette base-là. Alors, sans le « on », sans tous les mots qu'on peut dire, la différence dans un être réalisé puis avant, c'est que ce n'est pas dans ce qui est ressenti, c'est dans ce qui n'est pas ressenti. Les états s'arrêtent. Comment expliquer ça? Les trois états s'arrêtent. Quand la vie particulière, l'individu s'éveille le matin, qui donne la conscience d'être, elle ne sort pas de nulle part, elle sort de cette base-là, et c'est une véritable nature. Non manifesté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, non manifesté? On a tout entendu aussi là-dessus. Hein. Mais le soi qui est la base, lui, malgré qu'il y ait un réveil pour la conscience, lui, il n'a pas besoin de se réveiller, il est tout le temps là. Et c'est ça, c'est tout le temps là, cette existence totale, tout court. C'est notre véritable nature. Le savoir, alors c'est pareil, le savoir dans le soi, ça paraît bizarre, mais avec des mots, on va dire ça, c'est le bonheur, bien sûr. Oui.